Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 20h sur Sud Radio avec le président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable ». Ça vient de sortir, c'est publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir Philippe Bilger.
Bonsoir mon cher Philippe.
Vous avez l'air dans une forme olympique.
Oui, je disais à notre ami Cédric que j'ai fait...
Cédric, hein, c'est Didier.
Pardon, je commence mal.
Si vous avez parlé à un Cédric, j'en ai pas vu dans le studio, donc excusez-moi.
Depuis la polémique sur les prénoms lancée par Éric Zemmour, j'ai une sorte d'Alzheimer sur les prénoms, c'est pas de ma faute.
Avec nous, Germaine Guirous, moi aussi j'ai un Alzheimer sur les prénoms, essayiste, non c'est Lydia. Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre... Assimilation, en finir avec ce tabou français publié aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir.
Bonsoir Karim David, bonsoir Ahmed Bilger. On commence bien.
Et Roland Lebray, ancien ambassadeur, je me bilgérise, DJ Lebray, ancien ambassadeur et consultant. Bonsoir.
Bonsoir à tous les anonymes.
Je parie que c'est la première fois qu'on vous appelle Cédric.
Absolument.
Et vous n'avez pas dit
j'aime
oh.
bien. Non, j'aime bien. C'est
et
un
Roland?
Joli prénom.
Oui,
Roland, c'est pas mal aussi.
Les... Je ne déroge pas au prénom français, Didier. Tout de même, ça, c'est fondamental.
Nos deux grands débats. À 17h30, défense européenne, Emmanuel Macron se berce-t-il d'illusions? Oui, il a parlé de la défense européenne comme étant une priorité de la présidence française qui commencera le 1er janvier prochain. Et avant même qu'il l'annonce au sommet européen comme c'était prévu qu'il l'annonce, le secrétaire général de l'OTAN depuis Washington a envoyé une fin de non-recevoir. À 18h30, notre second grand débat. Selon le président des évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué? Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Comment allez-vous les vraies voix?
On va très bien en ce qui me concerne.
Sauf pour les prénoms. Ça va, Didier?
Tout va bien.
Lydia est en pleine forme.
Ça va super bien.
Eh bien, écoutez, c'est parfait. Ça vous dirait un petit tour de table de l'actualité avec Philippe Bilger?
Déjà?
Eh bien, c'est parti. Ah non, c'est mon coup de gueule. Ah oui, excusez-moi, pardon. Je donne la parole parce qu'il veut tellement souvent la parole, le premier,
mais non,
que
mais
j'en arrive à m'auto-censurer.
Mais non.
Alors, on va écouter un son parce que je ne peux pas m'empêcher de pousser un coup de gueule ce soir.
On arrive, vous allez voir. Les caméras bloquées et l'éducation nationale, bon, des fils de pute, j'ai raté le bac.
Alors oui, l'intéressé qui a ce langage fleuri, alors sur la vidéo, il a même, un de ses amis a même un flingue à la main, s'appelle Ryan, il avait été interpellé en fin de semaine dernière parce qu'il avait volé dans un camion de pompiers, 20 ans, donc pas mineur, et il a volé, insulté les pompiers et les policiers d'ailleurs, il a été libéré moyennant une sanction extrêmement lourde, un stage de citoyenneté. Et comme le stage de citoyenneté est une sanction tellement lourde, évidemment, il a récidivé en faisant une vidéo où il menace Jean-Michel Blanquer avec un flingue à la main. Et donc, il est à nouveau en garde à vue. Et je me dis que quand on vole les pompiers, qu'on ne passe même pas une minute en prison, ça veut dire que dans ce pays, la justice est lâche, la justice n'existe pas. Parce que toute attaque contre les forces de l'ordre doit être sanctionnée. Vous voulez réagir, Lydia Guirous,
oui,
avant même Philippe Bilger.
Le tableau
comment
est encore...
vous
peu de galanterie, Philippe. Non, le tableau
dans
est
médias,
encore, est encore
pas.
Plus sombre que cela, parce qu'il avait également fait, en fait, une vidéo où il menaçait d'aller se rendre dans un commissariat de police pour menacer
les policiers.
De commettre ce qu'on peut considérer être un attentat, et en faisant ça au nom de Allah, hein, d'après ses dires. Et après avoir été arrêté, il a publié un message sur Instagram dans lequel il ne regrettait absolument rien, et au contraire, il se disait victime de diffamation. Donc on voit bien que
avec
cette
des vidéos
peine,
et avec lui.
Cette pseudo-peine, en fait, ce stage, cette pédagogie ne sert strictement à rien. D'autant plus que c'est une personne qui travaille dans l'éducation nationale.
En
il
plus.
Est surveillant dans un collège. Donc imaginez bien les valeurs qu'il peut transmettre aux jeunes qu'il est censé encadrer. J'espère qu'il y aura des sanctions et qu'il sera exclu de cet établissement. Et j'espère que là, on sortira du stage pour aller vers une véritable peine.
Philippe Bilger, c'est vrai qu'on se rappelle pour les fichiers S des stages de caresse de hamster, qui doit être quand même
la
quelque
fameuse
chose.
Déradicalisation.
Ah oui, pour la déradicalisation. Là, vous volez les pompiers et bon, allez,
Philippe,
stage de citoyenneté.
c'est sûr le stage de citoyenneté, parce qu'on avait douté à l'époque.
Non, absolument.
Donc c'est sûr. Vous avez totalement raison sur le plan de l'indignation, mais je confirme mon point de vue initial sur lui. C'est un imbécile. C'est un idiot. Je ne crois pas que derrière il y ait une malfaisance, parce que sinon ce serait de la folie pure.
Enfin, excusez-moi, quand on a un flingue à la main,
oui, non,
ça pose
mais
question,
ça n'empêche pas d'être bête. C'est drôle comme parfois on ne parvient pas à penser deux idées contradictoires à la fois. Et lorsque vous dites qu'il aurait dû aller en prison, je n'en sais rien, Philippe. On peut être intelligent sur le plan judiciaire en ne considérant pas que la prison est le seul remède. Mais on devrait trouver un moyen radical cette fois-ci, et il n'y a pas que la prison pour l'empêcher de renouveler des choses que d'aucuns peuvent dire choquantes et lucides, et que moi je persiste à trouver infiniment déséquilibré, ce qui ne les rend pas moins graves.
Didier Lebray.
Non, très rapidement, il a pas sa place, c'est clair,
dans un collège.
Ça, c'est la sanction disciplinaire, me paraît évidente. Ensuite, moi je rejoins ce que disait Philippe à l'instant. Il y a toute une génération d'individus qui a tellement besoin d'exister, qui sont prêts à tout pour pouvoir faire le buzz. C'est aussi ça le problème auquel on est confronté. Donc tous les moyens sont bons.
Un de ses copains est même passé chez Hanouna juste après pour expliquer qu'il avait juste fait une bêtise, etc. Voilà.
Non, mais il y a des bêtises qui commencent comme ça sur les réseaux sociaux et qui peuvent se terminer
dramatiquement.
Souvent d'ailleurs, celui qui commet l'irréparable a été incité par quelqu'un qui est passé par les réseaux sociaux. On se souvient très bien de ce qui était passé avec Samuel Paty, et bien d'autres encore. C'est la caisse de résonance, elle se fait à travers les réseaux, et ensuite quelqu'un prend l'arme parce que effectivement il y a eu une incitation, et donc là-dessus il faut être impitoyable. D'ailleurs on peut être très dur sur sur l'incitation à la haine,
bien
ou
sûr,
à l'appel à
l'apologie du terrorisme, bien sûr.
Mais là, c'était de l'apologie du terrorisme, clairement. On disait qu'il allait dans un commissariat.
Il n'y a aucun regret, et puis il réitère quand même avec cette troisième vidéo. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ce sentiment d'impunité qu'il y a chez une partie de la jeunesse qui considère que ce qui est dit dans le monde virtuel n'aura pas d'impact dans la vraie vie. Et on le voit bien avec l'affaire Mila. C'était des centaines de milliers de messages de menaces, violents. Donc elle en poursuit beaucoup. Il y en a une quinzaine qui ont été identifiés, mais là aussi, il n'y a pas eu de regrets qui ont été formulés, de regrets sincères qui ont été formulés par les jeunes. Donc le côté pédagogique, en fait, échappe totalement, et j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas la mesure de la dangerosité de leurs propos et le fait que ça peut se transformer en des actes dramatiques par d'autres.
Philippe Bilger veut réagir manifestement.
Non, pas du tout, ça me paraît évident. Simplement, lorsque je dis que c'est un imbécile, ça n'altère pas sa malfaisance. Mais je veux dire qu'il ne faut pas considérer que cet individu est évidemment déterminé, comme s'il était lucide et conscient, à accomplir le pire qu'il promet. Mais il vaut mieux prendre des précautions, je vous rejoins. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Didier. Je le répète pour me montrer que j'ai recouvré la mémoire.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 17h11, avec les vraies voix qui n'ont pas changé de prénom. À 17h30, notre premier grand débat. Défense européenne, Macron se berce-t-il d'illusions ? Pour le moment, sur Twitter, vous êtes 96,7% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Didier Lebray, et c'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine.
Tenez cette table-là. Eh bien, tout le monde l'appelle la table des chevaliers.
Ah bon ?
Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards, mais je sais pas s'il nous avait reconnus.
Le tour de table
de l'actualité.
Ça aurait pu être la table des deux Philippe.
Alors,
vous voulez parler de Jean-Yves Camus et Éric Zemmour.
J'ai l'impression, dans la forme, que la démarche d'Éric Zemmour commence un petit peu à agacer, au-delà de ses soutiens inconditionnels. C'est-à-dire que on a bien compris qu'il serait candidat, mais qu'au fond, il fait comme Macron, qui se protège avec le bouclier présidentiel, alors qu'il est officieusement candidat depuis des mois, depuis des semaines. En tout cas, Éric Zemmour préfère encore aujourd'hui, et ça commence à lasser, la confrontation confrontation avec les lecteurs plutôt que le dialogue direct avec les lecteurs. Il y viendra, tout de même, c'est très clair. Ce qui m'intéresse, c'est que hier ou avant-hier, il a dit clairement « je suis de droite ». Et en rappelant qu'il est comme le RPR des années 80 et qu'il a le souci, pour aller vite, de concilier, de réunir le peuple et la bourgeoisie. J'ai conscience d'aller très vite. Et ça ne suffirait pas pour être intéressant, même si ça sort de la bouche du principal intéressé. Mais Camus, dont vous avez parlé, Philippe, qui est un grand spécialiste de l'extrême droite et qui, en général, on ne peut pas dire qu'il est d'un favoritisme absolu à l'égard de cette branche-là, a dit, en effet, Éric Zemmour n'est pas d'extrême droite, il est de droite. Et c'est ce qui explique, et vous l'aviez dit vous-même sérieusement il y a quelques jours, qu'il gêne horriblement les Républicains, parce que ceux-ci ne peuvent pas se distancier de quelqu'un qui serait d'extrême droite avec une espèce de répugnance démocratique, mais pas du tout, il est de droite comme eux, simplement il va plus loin qu'eux.
Lydia Guirous.
Là, on se demande à partir de quand commence l'extrême droite et se termine la droite, parce qu'avec Éric Zemmour, c'est assez flou. Moi, ce qui me dérange dans la démarche d'Éric Zemmour, et je partage ce que vous disiez, Philippe Bilger, je pense qu'à un moment, ça va commencer à lasser cette tournée autour avec son livre comme prétexte ou comme support pour aller à la rencontre des Français. On a certainement envie maintenant qu'il rentre véritablement dans l'arène politique et qu'il clarifie véritablement son statut de candidat, mais c'est son agenda, il a le droit de choisir à quel moment il fera son officialisation. Mais je pense qu'il ne peut pas être considéré de droite dans la mesure où très régulièrement, alors peut-être que c'est pour faire le buzz, peut-être que c'est pour générer la polémique, mais très régulièrement il fait quand même des références qui sont plus que douteuses et plus que gênantes. Parler de la question du genre et de cette circulaire Blanquer que je condamne aussi, mais en faisant référence à Mengele, c'est quand même assez douteux. Sur Pétain, Vichy, c'est encore douteux. Et donc moi je crois qu'à partir de là, en fait, quand on va sur ce terrain-là, je ne suis pas certaine qu'on soit encore dans la droite républicaine, même si Éric Zemmour est très fin et arrive à amener des éléments pour semer le doute, évidemment, le RPR des années 80, la bourgeoisie conservatrice et les classes populaires, etc. Et c'est très bien pensé, mais je ne suis pas sûre qu'il fasse partie de la droite encore comme celle qu'on peut connaître avec LR notamment.
Didier Lebray.
Bon, je crois qu'il va clairement sur les terres ont été laissés en friche par le Front National depuis la stratégie de Marine Le Pen de dédiaboliser son parti. Donc elle a ouvert un espace, malgré elle ou en le souhaitant, et Zemmour s'engouffre dans cet espace. Et c'est un espace qui est attractif pour une partie de la population, parce qu'il fait un numéro de claquette en permanence, donc ça amuse, il y a une partie de divertissement dans ce qu'il fait, on se demande à quel moment il va clasher, etc. Donc je dirais que c'est par contraste, mais il est sur les terres classiques. Terre classique du Front National, avec un souci de respectabilité, parce qu'il se veut plus intelligent, plus féru d'histoire, etc. Mais en réalité, les thèmes sont les mêmes.
Philippe Est-ce Bilger. Que je peux vous contredire, mon cher
Avec plaisir. Il faut demander l'autorisation pour contredire un débatteur.
D'abord, je crois, je pense réellement qu'il est de droite. La grande différence, c'est que c'est une droite qui va au bout de ce qu'elle pense, avec une brutalité dans la forme. Il ne va pas, il n'est pas arrêté par des précautions de langage et de pensée. Premier point. Et d'autre part, vous évoquiez le fait que il allait en quelque sorte, après son numéro de claquette, disparaître. Je crois que, imaginons que ça se passe, comme vous le dites, Didier, d'abord, il aura laissé une trace très importante dans l'univers politique, parce qu'il l'aura ringardisé, à droite comme à gauche. Et ensuite, je crois qu'on aurait tort de croire qu'il a eu des devanciers. Alors, on cite souvent Chevènement, on cite Trump, on cite même Coluche. Je crois qu'il est, me semble-t-il, totalement atypique, parce que les deux premiers appartenaient, et Chevènement, bien sûr, peu ou prou au monde politique. Lui, c'est quelque chose, pour l'instant, qui ressemble à un objet politique non identifié. Et je ne crois pas qu'il peut-être, et il baissera, lorsqu'il sera officiellement candidat. J'en fais le pari. Mais pour l'instant, il est singulier.
Je suis d'accord avec vous, il est singulier et atypique parce qu'il met en scène quelque chose qui ressort de facteurs psychologiques, voire peut-être même pathologiques, avec des obsessions qui sont graves, qui sont inquiétantes, mais qui parlent moins de la France que de lui-même. Donc c'est peut-être ça qui est atypique.
Le tour de table de Lydia Guirouz, qui veut parler de l'état de la droite, on va le résumer en chanson.
Tout éclate, tout explose.
Vous reconnaissez ? Clo-Clo, absolument. Tout éclate, tout explose. C'est un peu la situation de la droite, non ?
C'est un peu ça. Je voudrais parler de la décomposition de la droite et notamment de LR en ce moment. Et j'ai l'impression que c'est une décomposition qui se fait en mode accéléré. Vous avez par exemple un Gilles Platret ou un Éric Ciotti. Gilles Platret a parlé d'épuration ethnique, mais bon. Mais surtout Éric Ciotti qui dit qu'il préférerait voter pour Éric Zemmour plutôt que pour Emmanuel Macron. Et une semaine après, vous avez Estrosi, donc son concurrent au niveau local, qui lui dit clairement qu'il votera et qu'il apportera son soutien à Emmanuel Macron. Donc là, on a l'impression de voir la droite qui est en train d'exploser sous nos yeux avec une incapacité à s'imposer dans le débat, une incapacité à avoir une personne pour incarner des idées qu'on attend. Et puis, surtout, il brille dans cette façon de parler à leur propre nombril avec ce congrès, avec un minimum d'adhérents, un congrès qui est reporté donc au 4 décembre pour désigner peut-être celui qui sera candidat, mais avec la potentialité d'avoir aussi Xavier Bertrand qui ira jusqu'au bout de la démarche. Donc là, ils sont en train de mettre en place toute la machine à perdre et j'ai l'impression que la décomposition se fait sous nos yeux, alors que samedi, vous avez Édouard Philippe qui va créer donc un parti qui appartiendra à une maison commune macroniste, mais qui, me semble, sera peut-être un sas pour accueillir des LR en mal d'avenir, peut-être.
C'est le sas pour les LR en mal d'avenir, comme le dit Lydia.
J'espère que non. La décomposition de la droite, le délitement en tout cas, je ne le vois pas là où Lydia le voit. Christian Estrosi, depuis des lustres, est davantage séduit par l'appât présidentiel que par le fait de demeurer légitime par rapport à une image d'autorité et de sécurité. Mais c'est surtout au niveau, vous allez dire que j'en fais mon ennemi préféré tout en étant conscient que c'est un homme très chaleureux, la catastrophe absolue aux Républicains, c'est Christian Jacob. Voilà un homme qui, depuis plus d'un an, stérilise l'opposition des Républicains en ayant attendu François Barmoin, qui n'a jamais dit qu'il voulait venir.
Mais qui ne voulait pas y aller, alors au moins c'était réglé.
Mais c'était clair. C'est pas parce qu'il était le meilleur ami de Christian Jacob qu'il deviendrait candidat. Deuxième élément, comment au moment où Macron est en pleine campagne officieuse, où Éric Zemmour avance, où tous les gens parlent de la campagne, reporter ça au 4 décembre. C'est hallucinant. C'est d'une non-assistance à démocratie. Démocratie en danger. J'irai même plus loin.
Didier Lebray.
Après, moi, je...
Je sens que vous n'êtes pas passionné d'idées par le destin des Républicains.
Non, mais si, bien sûr, ça fait partie de notre vie politique commune, donc je m'y intéresse par définition. Mais je crois que ce que Zemmour est en train de faire, surtout aujourd'hui, c'est de donner une opportunité fantastique à la droite, quelle que soit sa future incarnation, de pouvoir être présente au deuxième tour. Parce que, qu'on le veuille ou non, Marine Le Pen, elle conserve une audience dans le pays, donc elle ne descendra pas au-delà de 15, 14, 13%, j'en sais rien. Et Zemmour n'ira pas tellement plus loin que ça. Donc, ils se mettent dans une difficulté à pouvoir se qualifier l'un et l'autre au deuxième tour. En revanche, ça ouvre un boulevard dans un pays dont on nous dit qu'il est aux trois quarts de droite aujourd'hui pour un candidat si la droite arrive à s'unir. Bon, c'est pas mon souhait. Mais en tout cas, jamais un candidat de droite n'aura eu autant de chances d'être au deuxième tour. Et pour le coup, si le président sortant se retrouve avec un candidat de droite, ça lui simplifie pas la tâche.
Et donc,
la droite, fondamentalement, c'est plutôt
On voit les sondages de second tour. C'est vrai que c'est Xavier Bertrand qui fait le score le plus serré avec Emmanuel Macron. Mais avec ce congrès, vous avez potentiellement ce qui se dit, un Michel Barnier qui peut sortir et Xavier Bertrand surtout qui a dit qu'il n'y participerait pas. Donc là, c'est vrai que les cartes sont là. Ils ont tout entre les mains pour pouvoir faire quelque chose. Mais ils ont décidé de ne rien faire et notamment à la tête du parti.
Faites vos jeux et ça va durer encore un certain temps. Dans quelques instants, notre premier grand débat débat défense européenne. Emmanuel Macron se berce-t-il d'illusions? Vous êtes 97% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Didier Lebray.
Nous sommes en guerre. L'ennemi est là.
C'était pas ma guerre, c'est vous qui m'avez appelé, pas moi.
Invisible, insaisissable, qui progresse.
J'ai glissé, chef.
Et cela requiert notre mobilisation générale.
J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner.
Nous sommes en guerre.
C'est avec des conneries comme ça qu'on perd une guerre.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Bravo à Jamel pour ce jingle qui mixe la 7e compagnie et Rambo. Emmanuel Macron veut faire de la défense européenne une priorité de la présidence française de l'UE qui débutera le 1er janvier prochain. Il a d'ailleurs remis le dossier sur la table lors du sommet européen qui se tenait en Slovénie. Une défense européenne qui a d'ores et déjà du plomb dans l'aile puisque le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait anticipé dès mardi en annonçant depuis Washington que, je cite, « toute tentative d'affaiblir le lien transatlantique en créant des structures alternatives, en disant qu'on peut se débrouiller tout seul, va non seulement affaiblir l'OTAN, mais cela va aussi diviser l'Europe. » D'où notre premier grand débat. Défense européenne, Macron se berce-t-il d'illusions? Vous êtes 97,4% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Philippe-Michel Klasbauer, député Modem du Var et membre de la Commission de la Défense. Bonsoir.
Bonsoir.
Quand on entend le jingle, on se dit finalement la France c'est un peu la 7e compagnie, les Américains c'est plutôt Rambo et qu'on boxe pas dans la même catégorie.
Non, on est une compagnie d'élite, même les Américains le savent regarder. Quand ils étaient tombés dans un traquenard entre le Niger et le Mali et que leurs forces spéciales étaient coincées, c'était les forces spéciales françaises qui étaient allées les sortir de là. Donc la France sur le combat est valeureuse et les Américains sont tout à fait capables de et tout à fait conscients de notre valeur capacitaire.
Non, mais aucun doute là-dessus. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'au départ, Stoltenberg a fait une fin de non-recevoir par anticipation à la défense européenne.
Oui, mais il est un peu seul ce matin. Stoltenberg a l'habitude de prendre des positions qui sont diamétralement opposées à celles de la France. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, le développement d'une Europe de la défense n'est pas incompatible avec l'OTAN, au contraire, et il s'agit pour les Européens de prendre en main leur défense et aussi une vision stratégique des choses. Et je conduis une délégation à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN ce week-end et nous allons répéter ces choses-là, y compris à Stoltenberg lundi matin.
Philippe Bilger.
Monsieur le député, le passé démontre que toute tentative de défense européenne est sinon vouée à l'échec, du moins difficile à mettre en œuvre. À votre avis, pourquoi cette idée, pour tout Européen de bon sens, cette idée semble lucide et pertinente, a-t-elle tant de mal à être mise en œuvre ?
D'abord une nuance, mais qui est importante sur défense européenne ou Europe de la défense, parce que créer une armée européenne, c'est une armée, c'est une culture, et créer de toutes pièces une armée européenne, on n'y arrivera pas. D'avoir une coopération intégrée de la défense, des pays européens qui unissent leurs efforts, c'est le chemin que nous voulons prendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui on avait un peu de mal, c'est parce qu'on était un peu les seuls à parler de stratégie au sein de l'Europe. Vous avez vu que depuis Kaboul et depuis l'Afghanistan, les Allemands sont revenus, ils ont compris que lorsqu'ils étaient un peu abandonnés aussi par les Américains, il fallait avoir une stratégie et il fallait resserrer les rangs au niveau européen. C'est ce qui fait que depuis hier d'ailleurs, vous avez vu que nous ne sommes plus les seuls à parler de ce projet d'Europe de la défense. Les Allemands, les Italiens, les Espagnols se joignent à nous. Et c'est pour ça qu'on peut avancer vers un succès, cette prise de conscience et d'un progrès qui sera fait, c'est que nous ne sommes plus les seuls à porter le projet. Il y a maintenant d'autres personnes qui commencent à en parler, à ceux de nos partenaires qui sont les plus récalcitrants, notamment les Baltes, parce qu'eux, ils ont peur des Russes et qu'ils savent que la réassurance américaine et la réassurance de l'OTAN est vitale pour eux. Et on les comprend, parce que nous, en France, nous n'avons pas la même perception que l'Est de l'Europe sur la menace qui peut venir de plus à l'Est, de celle des Russes. Mais c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Et le fait que nous soyons plusieurs à porter la voix sera la seule clé pour un succès de cette recherche d'une coopération de défense européenne qui soit réellement à la mesure des enjeux.
Didier Lebray.
Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres options aujourd'hui sur la table. Et Emmanuel Macron a parfaitement raison de tirer les enseignements que tout le monde a tirés, notamment de la période de Trump, où on a réalisé que notre allié était pas fiable. Alors, c'est pas parce qu'on change de titulaire que la géopolitique va bouger. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut, en complément de l'Alliance Atlantique, il faut une défense européenne. Après, il faut s'en donner les moyens. Est-ce qu'on partage la même analyse sur la menace ? Est-ce qu'on est prêt à mettre de l'argent sur la table pour arriver à ce que l'OTAN réclame depuis longtemps, au moins 2% d'efforts de défense rapportés au PIB ? Vous avez les trois quarts de l'effort de défense de l'OTAN, aujourd'hui, ce sont des pays qui sont non membres de l'Union européenne, à commencer par les États-Unis. Donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Si on veut vraiment faire la preuve qu'on s'engage sur une défense européenne, il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens, et peut-être qu'à terme, ça nous permettra aussi de construire une base technologique et militaire crédible, européenne, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments de divergence aujourd'hui. Et il faut commencer d'abord par se mettre d'accord sur qui est l'ennemi. La grande difficulté qu'ont les Européens aujourd'hui, c'est que on voit pas tous le même ennemi à notre porte. Pour les Baltes, comme disait le parlementaire, c'est clairement la Russie. Pour nous, ça peut être la déstabilisation de notre flanc sud. Donc, y a un gros travail encore de convergence à faire sur ne serait-ce que l'analyse de la menace.
Philippe Michel Kleisbauer.
Oui, je suis d'accord avec vous. Sur l'aspect budgétaire, le budget de la France arrive à 40 milliards, celui de l'Allemagne dépasse 60 milliards, les deux réunis, c'est une centaine de milliards. Comparé à celui des États-Unis qui a près de 800 milliards, on a un effort colossal. Oui. Il faudrait que tous les pays européens acceptent de multiplier leur budget. Sur la question de la menace, d'où qu'elle vienne, de l'Est, du Sud, là aussi, on a des convergences à faire germer, à arriver à faire comprendre. Le problème que nous avons jusqu'à présent, c'est qu'un peuple comme le peuple allemand n'est pas aussi féru de géopolitique que l'est le peuple français. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'ils sont dans la démarche économique et industrielle et toujours très focalisés sur ces démarches-là, la France se bat depuis un moment pour faire prendre en compte la nécessité d'avoir une vision globale et stratégique de l'Europe. Et c'est pas une mince affaire, mais aujourd'hui, les événements récents que nous avons vécus nous prouvent que nous sommes dans le vrai. Et c'est pas facile, mais nous devons arriver à convaincre nos partenaires européens que cet effort, il faut le faire. Vous parliez de Trump, qui était pas forcément un bon ami ou un bon allié, mais il nous a quand même rendu un service quand il a ouvert la porte et qu'il a dit qu'il fallait que l'Europe assure sa part du fardeau. Il n'avait pas tort. Et en fait, il a entrouvert une porte dans laquelle nous sommes rentrés en disant « mais oui, il faut que l'Europe assure sa part du fardeau dans sa propre sécurité pour ne pouvoir se débrouiller toute seule et ne compter sur personne d'autre qu'elle-même ».
Lydia Guirous.
Oui, moi quand j'entends parler de défense européenne, souvent j'ai l'impression que c'est un vieux serpent de mer. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment on fait cette défense européenne alors que ça pose un problème de souveraineté ?
Ouais, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, vous l'avez entendu, je vous ai parlé d'Europe de la défense. Parce que faire une défense européenne, c'est une armée européenne. Ça pose des problèmes de procédure, on a vu, et puis ça pose des problèmes d'une culture. Même en France, quand on a voulu annexer une branche cyber, on a laissé la branche cyber dans les armes existantes. Parce qu'on on ne crée pas une armée nouvelle, on ne crée pas une branche nouvelle comme ça du jour au lendemain. Ensuite, cette question de souveraineté est étroitement liée à celle de la France et de la position nucléaire de la France. Et les avis sont partagés là-dessus, mais je fais partie de ceux qui estiment que la France ne doit pas abandonner son siège au Conseil de sécurité de l'ONU et ne doit pas revenir sur sa prérogative nucléaire. C'est ce qui fait aussi que je dis à mes camarades que nous devons rester dans le commandement intégré de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que d'être dans le commandement intégré de l'OTAN, ça nous donne un siège à un G3 absolument exceptionnel, chef d'état-major US, chef d'état-major britannique et chef d'état-major français qui se réunissent en début de conseil militaire systématiquement tous les trois et seulement après les autres sont invités à venir les rejoindre. Donc cette position que nous avons et cette force que nous avons, elle doit être respectée dans son intégrité au sein de cette Europe de la défense. Mais il faut que nous fassions, comme l'a dit notre interlocuteur précédent, nous devons augmenter notre budget.
Didier Lebray, pardonnez-moi.
Nous devons augmenter notre budget, et pas seulement nous. Nous avons fait des efforts, 1,7 milliard de plus chaque année. Nous sommes aujourd'hui en train de rétablir l'intégrité de nos armées pour temps de paix, mais il va falloir faire un effort de plus si nous voulons être à la mesure des enjeux en cas de dégradation accélérée climat international.
Philippe Bilger.
Avez-vous l'impression que cette volonté présidentielle, à partir du 1er janvier, ne pourrait pas être affectée par les, comment dirais-je, les récents déboires diplomatiques et que la France a connus, notamment avec l'Australie, ou pensez-vous que ça n'a aucun rapport ?
Eh bien, non, je pense que même peut-être ça va nous aider, parce que j'ai vu que dans les déclarations de Blinken, il parlait justement lui-même, il appuyait sur le fait que la sécurité de l'Europe pouvait se développer sans que ça porte atteinte à l'OTAN. Donc c'est même un démenti de ce que Stoltenberg a dit quelques heures plus tôt. Et c'est exactement ce que nous allons porter avec le président Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, qui est le président en titre de la délégation à la paix et au temps, et auquel je suis son adjoint. Nous avons une bilatérale en arrivant à Lisbonne ce week-end, et nous sortirons un communiqué commun dans ce sens. Donc, ce qui s'est passé avec AUKUS a mis absolument tout le monde de notre côté sur l'écran, si je peux dire, ou sur les dents, et qui fait que les Américains seront bien obligés de comprendre que nous n'abandonnerons pas notre idée de cette Europe de la défense.
Didier Lebray.
Oui, puis il y a peut-être aussi deux obstacles sur la route qui sont pas des moindres. Le premier, c'est les limites institutionnelles de l'Allemagne pour s'engager sur un théâtre extérieur. Donc ça restera toujours un point de blocage. Je parle même pas du blocage psychologique des Allemands à s'engager sur des théâtres d'opérations lointain. Et le deuxième, c'est que notre vrai partenaire militaire, qui est le Royaume-Uni, est sorti de l'Union européenne. Les seuls à savoir faire la guerre aujourd'hui, ce sont les Britanniques et nous-mêmes. On le voit quand on monte des opérations complexes au Mali. À part la logistique, les autres pays sont, et la formation, les autres pays sont dans l'incapacité de faire ce qu'on fait. Donc on sera toujours très seul. Donc ce qui veut dire qu'on va porter longtemps ce fardeau d'une défense européenne qui sera essentiellement française.
Philippe-Michel Kleisbauer.
Oui, à nouveau d'accord avec vous, avec nos amis et alliés britanniques. Avec la petite différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ne s'engagent plus, si les Américains ne s'engagent plus, alors que la France est capable de se projeter toute seule et d'aller de bout en bout. Problème de logique ou quelques ravitaillements mis à part. Mais la réalité, c'est que, en effet, et l'affaire AUKUS, moi, me gêne par rapport à notre relation avec les Britanniques, parce que les accords de Londres, les accords de Lancaster House, c'était quand même les meilleurs accords, les meilleurs traités qui soient, et une vraie coopération avec les Britanniques. Et c'est bien plus aisé pour nous, et une culture et une habitude de travailler avec eux sur les projections que nous ne pouvons pas faire avec les Allemands. Et vous avez entièrement raison là-dessus. C'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux au Parlement et à pousser l'idée que nous devons renforcer ces accords de Lancaster House. La réalité, c'est que ce qui s'est passé en effet ces dernières semaines, c'est pas aidant.
Alors justement, Philippe-Michel Kleisbauer, quand on voit les achats d'armes des pays européens membres de l'OTAN, on peut dire qu'ils achètent américains. Donc si Jens Stoltenberg a parlé depuis Washington, il parle de chez le décideur, non ?
Oui.
Parce que, excusez-moi, la solidarité européenne, la France achète pratiquement, je crois, 200 000 fusils d'assaut avec leur Runcor qui est allemand. Les Allemands n'ont jamais acheté un Rafale, ils préfèrent acheter du F-18.
Oui, et nous voyons qu'il y a quand même d'autres partenaires européens qui commencent à acheter du Rafale et nous sommes en train de...
Oui, les Grecs, c'est les seuls pour le moment.
Une montée en puissance à ce niveau-là, mais je pense que les choses vont changer. Les Allemands, vous savez, ont pris une douche froide à Kaboul eux aussi. Et le fait de devoir gérer eux-mêmes, seuls, leur retrait avec leurs 400 parachutistes déployés sur place, avec leurs intérêts économiques qu'ils avaient à défendre, ils avaient beaucoup investi sur l'Afghanistan. Le retrait brutal des Américains va peser dans les décisions à venir des Allemands.
Mais franchement, l'Europe de la défense, Lydia Girouz disait que c'est un serpent de mer, l'Europe, le serait-ce que de fait d'acheter européens, ce serait quand même un symbole. Et les pays européens n'achètent pas européens. Ils achètent quasi uniquement américains. Je parlais des Allemands. Regardez, les Néerlandais, les Belges ont acheté des F-35. C'est quand même complètement dingue de voir à quel point on fait preuve de peu de... J'aime pas le mot, hein, de patriotisme européen. Parce que, en solidarité, avec l'argent qu'on donne à la Pologne, elle achète des avions de chasse américains. C'est quand même dingue.
Il y a une façon aussi de contourner le problème des intérêts un peu antagonistes entre pays européens, c'est de monter des programmes communs. On a eu la 400M, c'est un exemple à suivre. Il faut qu'on ait une base industrielle européenne qui profite à l'ensemble des pays.
François-Michel Kleisbauer, le mot de la fin.
Oui, absolument. D'où l'initiative européenne de défense et cette coopération européenne de défense que le président Macron a proposé et a mis sur la table et qui sera un des axes principaux de notre mandat pendant le premier semestre 2022.
Merci beaucoup Philippe-Michel Klasbauer, député MoDem du Var et membre de la commission de la défense qui va aller du côté de l'OTAN les jours prochains. Verdict sur Twitter, le premier débat. Défense européenne, Macron se berce-t-il d'illusions ? Vous êtes 97,7% à dire oui, un score brejnevien. Dans quelques instants, ça vous dirait la chronique présidentielle de Philippe Rosset.
Plus que jamais.
Oui, on a hâte.
Eh bien écoutez, c'est tout de suite.
T'es tellement seule avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps. Avec des miches de sans sentiment.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Didier Lebray. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rosset. Et pas de plateau télé ou radio pour Marine Le Pen, mais une interview intimiste chez elle.
Eh oui, Marine Le Pen revoit sa com et elle passe par de la com digitale. Oui, j'utilise un petit peu le langage des start-upers. Bref, Marine Le Pen passe tout simplement, exclusivement par Internet. Elle enregistre des vidéos qu'elle poste sur la plateforme YouTube, interrogée par l'ancien journaliste Pascal Humeau, qui est prestataire de la candidate. Et cet entretien se passe à son domicile, écoutez.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici. Chez vous, on est chez vous. Vous vous sentez bien ici? On a tous un rapport particulier à notre domicile, à notre maison. Quel est le vôtre?
Ah, c'est un refuge. Chez moi, c'est vraiment l'endroit qui est préservé de la fureur du monde, enfin, depuis que vous êtes arrivé.
Oui, bien sûr, c'est gentil.
Ah là, c'est une bonne ambiance hein, chez Marine Le Pen. Ambiance un peu bar-café. Voilà, on voit la candidate assise. Enfin assise un petit peu affalée sur son canapé à répondre aux questions de Pascal Humeau. Et à la fin de l'entretien, le présentateur lui pose la question qui fâche. Une question sur la percée d'Éric Zemmour. Que dites-vous aux Français qui nous regardent et qui sont déstabilisés par cette succession de sondages? Réponse de Marine Le Pen.
Je leur dis de regarder le passé, de s'apercevoir qu'en réalité, il y a eu toute une série d'élections, il y avait comme ça des météorites, le troisième homme. Alors, c'est une sorte d'histoire qu'écrivent les journalistes, ils se plaisent à la raconter. Mais la réalité, c'est qu'il y a un vrai choix aujourd'hui, et ils le savent, je crois. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, depuis 4 ans et demi, nous sommes donnés, Emmanuel Macron et moi-même, au second tour. Parce qu'il y a un vrai choix de civilisation entre les deux. Je suis convaincu que cette agitation passera.
Voilà, Marine Le Pen qui rajoute, je vous donne la parole tout de suite, ouais. Je suis désolé de ne pas participer à mon 18e enterrement, j'aimerais qu'on commence à parler du fond. Elle est vraiment pas inquiète, Marine Le Pen.
Vous êtes sûr que c'est chez elle, là?
Oui, c'est chez
parce
elle,
parce que j'ai pas entendu miaou, miaou.
Non, c'est vrai, il n'y avait pas le chat, c'est vrai. Non,
mais
c'est vrai.
Un chat, ça dort 18 heures par jour.
Mais en même temps, elle est il faut reconnaître qu'elle est solide, objectivement. Ouais. Elle en a pris plein la tête depuis des années. Elle fait bonne figure devant cette chute du Rassemblement National. Et cette montée, pour l'instant, provisoire, ouais. Résistible d'Éric Zemmour.
Ouais. Il est possible que parfois la nuit, elle ne dorme pas vraiment aussi sereinement qu'avant. C'est possible.
À 6 mois de la présidentielle, La République En Marche se met en ordre de bataille.
Allez, non, pas l'RM. Version
Rambo.
Pas l'RM.
Ah oui, c'est vrai.
La majorité présidentielle qui passe aux choses sérieuses. 101 tracts seront distribués ce week-end sur les marchés du pays. Pourquoi ? Pour vanter le bilan économique d'Emmanuel Macron. Dans ce document, LREM salue l'action du président, comme par exemple l'augmentation de la prime d'activité, ou encore la suppression des charges sur les heures supplémentaires et les pourboires, ou encore la réforme de l'assurance chômage. Bon alors, la réforme de l'assurance chômage, c'est un peu gonflé car beaucoup de Français y étaient opposés. Mais bon, sur le secteur industriel, la majorité présidentielle affirme toujours dans ce tract que la France est maintenant le pays le plus attractif d'Europe. Voilà, le pays le plus attractif d'Europe, ça a fait rire aussi Philippe David ce matin quand je lui en ai parlé.
Ah oui, bien avec un déficit commercial à 85 milliards d'euros, c'est sûr qu'on est le pays le plus attractif, ça se discute même pas.
Emmanuel Macron n'est pas officiellement candidat, mais La République En Marche compte bien mobiliser et motiver les militants et les électeurs. Est-ce que ça vous fait rire ça, tiens Didier Lebray, par exemple, le pays le plus attractif d'Europe?
Non, moi je pense qu'il a, il a raison. Je veux dire,
Viens dans le micro.
Il a raison d'essayer de faire son propre bilan. Quand François Hollande a quitté le pouvoir, personne ne l'a fait et on l'a payé très cher. Donc il a sans doute tiré au moins cet enseignement.
Il a tendance à trouver qu'il est favorable.
Ah oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il se trouve bon, vous avez raison.
Ça s'appelle la méthode Coué.
Voilà, ouais.
Lydia Garros. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, donc il fait bien et je pense qu'il va intensifier.
Alors dans ce tract, je ne l'ai pas dit, il vante aussi le quoi qu'il en coûte. Voilà, oui. Si on a pu vivre, si les restaurateurs, ce qui n'est pas faux ça pour
oui,
le coup,
ça, on
et les commerces ont pu vivre, c'est grâce au quoi qu'il en coûte, et le plan de relance économique à 100 milliards d'euros. Voilà donc la majorité présidentielle qui est en marche pour le coup
cette nouvelle
élection présidentielle. Je vous retrouve demain.
Au revoir. Plus ça va, plus la fin de vos excellentes chroniques... Vous ressemblez à Giscard.
Ah, d'accord.
En le faisant, écoutez, je sais pas.
J'espère avoir une aussi longue vie.
Ah oui, 95 ans. Ça vous promet d'ailleurs un très beau destin.
Voilà.
À 18h30, notre grand débat. Selon Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué? Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On en parlera avec un prêtre, Daniel Duigou, ancien journaliste qui en présentait le 20h de TF1 il y a quelques années et qui, lui, n'est pas du tout d'accord avec le président des évêques de France.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec le président. Comme Laurent Blanc, tiens, il y a quelques années. Mais lui, c'est le président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie, Philippe Bilger.
Merci, mon cher Philippe.
Merci, président. Lydia Guirous, on peut vous appeler la présidente?
Ça vous fait plaisir.
Mais... La présidente aussi, comme ça, c'est la lutte contre les discriminations. Essayiste, auteur du livre « Assimilation, en finir avec ce tabou français » publié aux éditions de l'Observatoire. Et le président Didier, non pas Cédric Lebray, parce que comme ça tout le monde est content, ancien ambassadeur et consultant. À 18h30, notre grand débat. Selon Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué? Vous êtes pour le moment 60% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Ça va les vraies voix?
Très bien.
Ah oui, très bien.
Tout va bien.
Tiens, mais on va voyager avec le tour de table de Didier Lebray. Michel Sardou.
Magnifique.
Belle entrée en matière, puisque vous voulez parler de l'ouverture, ça ne s'invente pas, du premier sommet Afrique-France à Montpellier, mais sans chef d'État africain.
Un sommet de chef d'État sans chef d'État, donc c'est assez innovant, peut-être même très disruptif. En fait, depuis 73, il y a toujours eu des sommets, tantôt en Afrique, tantôt chez nous, qui réunissent les dirigeants français et leurs homologues africains. Alors, sur le principe, on voit bien, l'idée, c'est de dialoguer avec la société civile. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que un gouvernement dialoguerait avec la société civile? On peut très bien faire dialoguer les sociétés civiles entre elles, les jeunes, les intellectuels, les artistes, les sportifs. À un moment où le message a été un peu brouillé quand même par cette histoire de visa étudiant, réduit de moitié pour le Maghreb et peut-être même l'Afrique subsaharienne. Donc je dirais, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Mais là, en l'occurrence, on va inviter les jeunesses de ces pays à venir raconter leur vie. Je pense qu'elles aimeraient aussi entendre le président sans doute sur cet aspect des choses. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que tous les pays ont finalement fait ce que fait la France depuis très longtemps. La Chine, le Japon, même l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni, tout le monde invite l'Afrique à dialoguer avec les chefs d'État. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on aurait un problème à dialoguer avec ceux qui sont au pouvoir? Alors on peut peut-être, c'est un des messages subliminaux, contester la légitimité, mais est-ce que c'est dans l'intérêt de ces pays qu'un pays ami donne le sentiment qu'il ne veut plus dialoguer avec les chefs d'État et de gouvernement? Je trouve ça très curieux, d'autant plus que le dernier sommet Afrique-France a eu lieu en 2017 sous François Hollande. Depuis, il n'y a rien eu. Et que le dernier sommet de la francophonie, qui est un autre espace de complicité, où des pays qui ont la même langue, la même culture, la même histoire, des références communes, ne s'est pas tenu non plus depuis octobre 2018. Depuis que le président Macron a confié les clés de l'Organisation internationale de la francophonie à Louise Mushikiwabo, une Rwandaise. régime rwandais qui avait, on s'en souvient, rejoint le Commonwealth, détruit l'institut et enlevé le français comme langue officielle. Donc on se retrouve dans une situation,
et qui n'a pas mis de secrétaire d'État à la francophonie.
Voilà, je trouve qu'on est dans une situation pour le moins insolite.
Philippe Bilger.
Mon cher Didier, ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous n'êtes pas un démagogue. Parce que vous auriez pu dire, en faisant de l'humour foireux, ce qui n'est pas votre genre, il n'y a pas de chef d'État, donc ça a une chance de réussir.
Lydia Guirouz, le sommet de chef d'État sans chef d'État, ça me rappelle une boisson qui s'appelle le Canada Dry. Vous savez, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Là, ça a l'apparence d'un sommet, mais ce n'est pas un sommet.
Mais pourquoi a-t-il été maintenu, en fait? C'est la question que je me pose. J'avoue que je n'ai pas compris.
Il était programmé pour Bordeaux, oui. Pour des raisons sanitaires, il a été reporté, mais dans un format qui était très différent. Il devait y avoir tous les chefs d'État qui venaient, il y avait des grandes manifestations sportives, culturelles, et là, le format était complètement revu par une espèce de dialogue direct entre les autorités françaises, le chef de l'État, et la société civile de ces pays.
Et quelle est son utilité aujourd'hui?
L'histoire nous le dira, mais pour l'instant, je...
C'est vraiment la question que je me suis posée en écoute.
Mais est-ce que c'est pas quand même la preuve? On a parlé récemment de l'arrivée de Wagner, des mercenaires russes, oui, au Mali. Alors qu'on est en guerre au Mali depuis 2013, janvier 2013, c'était sous François Hollande, ça fait donc près de 9 ans. Est-ce que quelque part, on parlait de l'arrivée des Chinois, mais ça fait belle lurette, de la Russe-Afrique, maintenant de la Turc-Afrique, avec la Turquie qui investit. Est-ce que quelque part, on parle vrai sur Sud Radio, la France n'est pas en train de se faire virer de son pré carré?
Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et aujourd'hui, moi, ce qui me semble prioritaire, c'est d'envoyer les bons signaux à nos partenaires africains. Ils ne demandent pas ni condescendance, ni qu'on réinvente l'histoire tous les quatre matins. Ils demandent simplement à ce qu'on les respecte comme partenaires, à ce qu'on reconnaisse qu'on a tous des intérêts, les Africains partout dans le monde, nous en Afrique, et qu'on les traite comme des partenaires. Mais je trouve cette espèce de façon de dire « je vais traiter directement avec les sociétés civiles » comme une forme de nouveau de condescendance, c'est-à-dire que
de paternalisme.
De paternalisme. Alors que j'imagine que ça a été conçu à l'inverse pour montrer que la France dialoguait avec des gens qui n'étaient pas au pouvoir.
Lydia Guirouz.
Oui, même vis-à-vis de l'histoire, on a tout intérêt à avoir des relations étroites avec les pays africains, les pays du Maghreb aussi.
Les pays francophones.
Mais vraiment, et c'est vrai que c'est un grand gâchis que de ne pas réussir aujourd'hui à avoir des relations plus intelligentes, plus apaisées, et des relations où on comprend les intérêts des uns et des autres. Et moi, je déplore depuis un moment maintenant de voir avancer les positions de la Chine, qui ne sont pas les plus respectueux sur les conditions de travail ou les droits de l'homme en Afrique, ou les positions de la Turquie. D'autres investissent dans ce continent, d'autres gagnent du terrain, leurs intérêts sont défendus, et nous, notamment l'influence française, est en train de reculer, alors que nous avons le plus de liens, et même on a une population issue de l'immigration qui a des liens aussi avec ces pays-là, et ça pourrait que resserrer les relations. Et on ne pourrait que travailler en bonne intelligence, mais on n'y parvient pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi.
Vous êtes d'accord avec ça, Didier Le Vray ?
Absolument. Moi, je pense qu'il y a
bien dans le micro.
Il y a une volonté sur ce sujet comme sur d'autres de faire toujours la part belle à l'innovation. Je pense que dans une diplomatie efficace, il faut aussi assumer une part de continuité. Donc là, je pense que le choix me paraît assez hasardeux.
Vous êtes bien dans les vraies voies, 18h14 à 18h30, notre grand débat. Selon Mgr Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Mais dans quelques instants, on parlait de francophonie, ça tombe bien, des journées francophones de radiologie. Ça commence demain, c'est le deuxième plus gros congrès mondial de radiologues. Et on va parler notamment de la radiologie interventionnelle, de l'éco-responsabilité et de l'équité d'accès aux soins pour les patients. On sera avec la professeure Hélène Kovacic, qui est présidente de l'association de la Fédération de radiologie interventionnelle et présidente des journées francophones de radiologie.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les journées, retour des vraies voix, pardon, avec Philippe Bilger, Lydia Guirouz et Didier Le Bray. Les journées francophones de radiologie se tiendront de demain à lundi à Paris. Nous sommes en compagnie du professeur Hélène Kovacic, radiologue interventionnelle et chef de service de radiologie à l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier, présidente de l'association de la Fédération de radiologie interventionnelle et présidente des journées francophones de radiologie. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Vous avez un CV de présidente qui est absolument impressionnant. Alors tout d'abord, on parlait de francophonie il y a quelques instants sur l'Afrique. Présentez-nous les journées francophones de radiologie.
C'est un congrès traditionnel qui se tient à Paris tous les ans et cette année en présentiel, on en est très, très heureux, et qui réunit les radiologues français, les professions également qui sont associées à la radiologie comme les manipulateurs de radiologie, également les industriels et ceux qui travaillent pour nous permettre d'avoir du matériel dans notre activité quotidienne. Et les radiologues viennent de France, mais des pays limitrophes, la Belgique, la Suisse, le Canada, également d'Afrique du Nord aussi, de tous les pays francophones.
Alors justement, vous parlez notamment dans ce congrès de radiologie interventionnelle. Vous êtes radiologue interventionnel. Qu'est-ce que la radiologie interventionnelle pour les Béotiens ?
La radiologie interventionnelle, c'est utiliser le guidage par l'imagerie, scanner, IRM, échographie, pour atteindre sans ouvrir le corps, sans opérer directement des lésions qu'on va traiter, soit en passant par les vaisseaux, en ponctionnant les vaisseaux, en mettant un petit tuyau dans les vaisseaux, soit avec une aiguille, directement sous le contrôle de l'imagerie pour atteindre une lésion. Donc c'est une imagerie qui est très très précise.
Alors, dans votre congrès, vos journées francophones de radiologie, il y a un point important, c'est l'équité d'accès aux soins pour les patients.
Alors, cette équité, elle se décline à la fois sur la radiologie diagnostique, c'est-à-dire permettre dans les régions où il y a très peu de médecins, très peu de radiologues, d'avoir accès avec des nouveaux métiers de manipulateurs, avec de la téléradiologie, mais surtout en redéployant en présentiel les forces présentes en activité libérale ou dans les hôpitaux pour aller vers les patients. Et c'est également pour la radiologie interventionnelle, permettre d'avoir des traitements pour des patients qui sont vulnérables, qui sont trop âgés, trop fatigués pour bénéficier de chirurgies lourdes et de préférer de proposer des traitements par radiologie qui sont beaucoup moins lourds et qui sont aussi efficaces.
Je donne la parole à Philippe Bilger, qui est lui aussi président, mais de l'Institut de la Parole.
Professeur, je vais être le seul à poser cette question parce qu'elle révèle le comble de l'ignorance. Qu'est-ce que, au fond, une définition générale de la radiologie, ce serait quoi ?
La radiologie, je pense, c'est au départ faire des images des organes et des maladies.
D'accord.
Didier Lebray.
Professeur, j'avais une question. On dit que l'avenir des radiologues est menacé par l'exploitation via des algorithmes des radios et qu'il y a une vraie angoisse de la profession. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Alors moi, je ne le pense pas du tout. Ça fait des années que les radiologues utilisent des algorithmes bien avant l'intelligence artificielle pour travailler, pour aider. Ce sont des outils pour nous. C'est un petit peu comme quand vous utilisez votre téléphone et que vous avez la dictée vocale. Il faut quand même une voix qui parle, il faut dire des choses. La machine, elle fait que des choses qu'on lui a apprises. Ce sont des outils remarquables que nous utilisons et que nous développons. Mais ce n'est qu'une partie, qu'un outil.
Il y a une chose importante également dans ces journées francophones de radiologie qui commencent donc demain, c'est l'éco-responsabilité. C'est quoi l'éco-responsabilité en radiologie ?
Eh bien, être éco-responsable, c'est essayer de faire le même métier en protégeant notre environnement et les sujets sains. Et ça, c'est important. L'écologie, ça ne s'arrête pas en rentrant à l'hôpital avec sa gourde qui n'est plus en plastique. Voilà. Donc, quand nous travaillons, nous utilisons beaucoup d'éléments qui sont dans des emballages stériles, dans des cartons. On ouvre beaucoup, on jette beaucoup. Et on pourrait trier, avoir des plastiques recyclables, moins jetés, mieux triés. Également, on utilise énormément de ressources numériques. Puisqu'on transfère des images, on en produit énormément avec des consoles et on peut essayer de faire ça de façon plus économe. On utilise des produits de contraste, on utilise beaucoup de choses aussi qui ont un potentiel à être éliminées de façon différente et il nous faut, nous, optimiser cette façon de gérer notre électricité, de gérer nos climatisations, de gérer les images que nous stockons, que nous transférons et nos emballages en achetant mieux, en jetant moins, pour essayer d'être plus économe et de participer à cette action qui est maintenant sociétale.
Philippe Bilger.
Professeur, je vais continuer dans les questions légèrement ineptes. Mais
c'est le légèrement qui est
sérieusement, comme vous avez dit tout à l'heure, que la radiologie, c'était l'image des organes et des maladies. Est-ce qu'il serait absurde d'imaginer un système de santé où, préventivement, toute la population passerait en radiologie parce qu'on verrait alors très clairement des maladies qu'on ne décèle pas, qu'on ne connaît pas.
Mais vous êtes, je dirais, au top de la modernité, parce que l'imagerie de demain...
Bah c'est bien la première fois qu'on dit ça. Hein. D'habitude, on est qualifié ultra-conservateur, alors vous savez...
Des gens intelligents qui savent dialoguer avec moi.
Là, vous me parlez de médecine prédictive et de médecine personnalisée dans laquelle la radiologie s'intègre. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on fait de l'imagerie, je dirais même de dépistage, aux gens qui n'ont rien, pour détecter des choses qui pourront demain parler. Ce n'est même pas des lésions, c'est des sujets un petit peu à risque. Et ça, c'est ce qu'on fait. On fait de la radiologie, on va dépister le cancer du poumon, on va dépister le cancer du sein, et on va aussi s'adresser pour avoir des populations qui sont plus à risque. Et ça fait partie des outils utiles pour la médecine de demain, préventive et personnalisée.
Une dernière question très courte. Les deux pays à l'honneur, c'est le Brésil et la Chine. Il y a encore des médecins francophones là-bas ?
Alors, il n'y a pas de médecins francophones. Il y a des médecins francophiles partout. Je pense que la médecine française rayonne partout. Mais nous collaborons, nous travaillons de façon internationale avec tous les pays. Et traditionnellement, nous en invitons deux. Cette année, nous n'aurons pas de membres qui ont pu venir à cause du Covid.
Covid, oui.
Mais ils sont quand même présents. Ils participent à l'élaboration des séances sur des thématiques, puisque les maladies maintenant sont à peu près les mêmes un petit peu partout.
Merci beaucoup, professeur Hélène Kovacsik. Ça se tient de demain à lundi au Palais des Congrès de Paris, la journée francophone de radiologie. Dans quelques instants, notre second grand débat. Selon Mgr Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué ? Vous êtes 59,3% à dire oui. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Didier Lebray.
La confession doit rester secrète et le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre.
Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession aujourd'hui est plus fort que les lois de la République.
Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera
Elle est plus forte que les lois de la République.
Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République.
Le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Cette phrase prononcée sur une radio concurrente par Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, fait énormément réagir. Des propos qui remettent sur la table le sujet brûlant qui, entre la loi de la religion et les lois de la République, est supérieur. Un sujet pourtant tranché dans la loi du 24 août dernier, confortant les principes de la République, dite loi antiséparatisme, d'où notre grand débat. Selon Mgr Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué ? Vous êtes 59,3% à dire oui. Avec nous, Daniel Duigou, prêtre délégué aux nouvelles croyances par l'archevêque de Paris et auteur du livre qui vient de sortir, « 7 jours au désert », publié chez Salvator. Bonsoir.
Bonsoir, Philippe.
Cette phrase fait scandale. Comprenez-vous pourquoi ?
Oui, absolument. Je comprends l'émotion, d'une part, parce que les conclusions de la commission Sauvé sont terribles. Et lorsque l'on parle de secret, je pense que l'ensemble de la société qui ne connaît pas la tradition de l'Église ne peut pas comprendre ce secret absolu. Et il faut absolument expliquer. Il faut que l'Église entende l'incompréhension de la société. Et en même temps, il faut que la société comprenne pourquoi l'Église tient absolument à ce secret absolu. Une chose est sûre, Philippe David, c'est que s'il y a loi de Dieu, en aucun cas, c'est une loi qui se retournerait contre l'enfant. Au contraire, loi de Dieu, c'est de protéger d'abord la victime, et en particulier ici, l'enfant. Mais il faut expliquer, selon la tradition qui remonte à l'an 450, pourquoi l'Église est tant attachée au secret de la confession. Mais je dis bien, et on va sans doute l'expliquer, au secret de la confession, ce qui est à distinguer du secret professionnel. Et ça, on ne le fait pas, et j'ai suivi les informations depuis ce matin, et on ne le fait pas. Or là, c'est important. C'est vrai qu'au niveau du droit, la distinction ne se fait pas entre secret professionnel, auquel est soumis médecin, prêtre,
avocat,
avocat, absolument. Et puis, ce que l'Église exige dans le cadre du droit canon est seulement dans le cadre du secret, dans le cadre de la confession, c'est le secret sacramentel, c'est ainsi que c'est dit, où là, absolument, le prêtre n'a aucune possibilité de dire quoi que ce soit sur ce qui lui a été dit.
Philippe Bilger.
Je vois avec plaisir, Daniel, puisque j'ai eu la chance, mon père, lorsque vous êtes déjà intervenu sur Sud Radio, si j'ai bien saisi votre position, vous êtes beaucoup moins indigné que Philippe David de me laisser croire pour me plomber le moral. En réalité...
Ah ben ça, c'est Philippe David.
Voilà.
Merci.
En réalité, je ne suis pas loin, si j'ai bien saisi, et vous me contredisez si j'ai tort, je considère qu'un grand progrès de la commission qui a fait un travail remarquable et glaçant en même temps, bien sûr, a été de dire qu'il fallait cesser, bien sûr, de prétendre que lorsqu'il y avait ces crimes, il convenait de laisser un dialogue direct s'installer entre le transgresseur et une forme de transcendance, mais que la justice séculière devait être saisie d'emblée. Ça, je trouve que c'est un grand progrès. Mais je distinguais cela, et je continue à le faire, du secret de la confession, qui prend le prêtre comme un confident incontournable, nécessaire, obligatoire, et qui ne saurait lui faire jouer le rôle de dénonciateur. Ça n'est pas la même chose d'être au fait d'une nouvelle qui annonce une transgression par d'autres biais, ou de l'être par le secret de la confession. Voilà ce que je me permets de vous dire pour être éventuellement critiqué.
Daniel Duigou.
Alors, je crois vous comprendre et je suis tout à fait d'accord avec vous. D'une part, cette commission, elle est exemplaire. Elle a eu à traiter des affaires en toute indépendance et voulue par l'épiscopat. Et ce serait bien peut-être que dans d'autres instances de la société ou d'autres religions, on en fasse de même. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Il y a un modèle là qui est à suivre et c'est l'Église qui, la première, en France en tout cas, fait ce pas essentiel, ce n'est que le début. Et deuxièmement, et je reviens à ce que vous dites, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre dans cette distinction entre le secret professionnel et le secret de la confession pour le prêtre. Lorsqu'il y a, je reprends votre expression, confidence, en dehors de la confession, lorsqu'il y a confidence, comme lorsqu'il y a une confidence à un médecin, à partir du moment où le prêtre a connaissance d'un crime, puisqu'il s'agit de crime, il a l'obligation d'avertir la justice. L'obligation, et il est écrit sans délai. Sans délai. Ça, c'est une chose. Autre chose, et ça, c'est encore une fois toute la tradition de l'Église, lorsqu'on est dans une situation de confession, ou pour l'Église, il faut entrer dans cette dimension-là théologique. Il s'agit de s'adresser à Dieu à travers le prêtre. Il ne peut y avoir de liberté de la parole, car là, il s'agit d'être libre, et pour tout dire, que dans la mesure où il y a un secret absolu, ou sinon il ne peut pas y avoir de parole libre et donc de confession. Et donc, il y a vraiment une sorte de formule qu'on pourrait dire, le secret absolu garantit la liberté absolue.
Lydia Guirous.
Oui, je comprends que la confession ne peut avoir lieu que si l'on pense qu'on est dans le secret absolu, mais lorsque... le secret absolu protège un crime, et en l'occurrence, on parle avec ce rapport de pédophilie, donc de quelque chose qui touche à l'enfant. Est-ce qu'on n'est pas dans la complicité si on ne le dénonce pas ? Moi, je trouve que le travail qui a été fait est extrêmement courageux, effectivement, de la part de l'Église. Dans ce rapport, on parle de 216 000 cas. En 70 ans, ça veut dire 3000 cas par an.
330 000 en tout.
Bon, bah,
absolument. Avec les laïcs qui travaillaient dans les institutions catholiques.
Plus de 3000 cas par an, quand même, c'est extrêmement lourd. On parle d'enfants, on parle d'innocence d'enfants brisés, des vies qui sont brisées. Je pense que là, dire que le secret est absolu. Pour moi, c'est presque de la complicité. Alors, je comprends qu'il faut protéger l'institution, mais maintenant, il faut protéger. Je crois que il faut évoluer vers une protection des individus, et ces individus sont des enfants. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement maladroit de la part de Monseigneur, pardonnez-moi, je ne sais plus le...
Éric de Moulin-Beaufort.
Voilà, de dire que les lois de la République n'étaient pas supérieures. D'autres religions ont parfois voulu dire que les lois de la République étaient en dessous, et ça a scandalisé. Je crois que ça vaut pour tout le monde. Et encore une fois, on parle d'actes qui sont des crimes, et qui sont des crimes commis contre des enfants.
Daniel Duigne.
Non, d'abord, je voudrais vous reprendre. Il ne s'agit pas, dans le secret sacramentel, de protéger l'institution. Pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de protéger la liberté de parole. Lorsqu'une personne vient demander pardon à Dieu, c'est la démarche de l'Église, la démarche d'un pénitent, comme l'on dit. Deuxièmement, vous avez donné des chiffres. Au passage, je voudrais rappeler que j'ai vu les journaux ce matin, la très très grande majorité d'actes de pédophilie, c'est au sein de la famille. Attention, il ne s'agit pas de relativiser le crime.
Moi, je parle des chiffres qui étaient dans le rapport.
Il s'agit de relativiser les chiffres que l'on utilise. Et troisièmement, plus peut-être précisément à ce que vous avez dit, il est bien évident que lorsque le prêtre entend un enfant et que l'enfant va révéler un abus, il ne va pas simplement l'écouter, je veux dire passivement, et puis hop, donner l'absolution pour les péchés qui ont été donnés. Il a l'obligation, selon le droit canon, d'inviter l'enfant. Alors là, il y a toute une pédagogie et il faut que le prêtre soit préparé parce qu'il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'accompagner l'enfant à ce moment-là, et de l'inviter à prendre la parole, mais en dehors de la confession, auprès de tiers, et notamment, par exemple, si c'est l'abus d'un prêtre, auprès des parents, auprès du père, qui, lui, en tant qu'adulte, va pouvoir agir ce que l'enfant ne peut pas faire. Voilà, le prêtre, en aucun cas, reste passif. Il va prendre en compte le fait qu'il reçoit une information de la part d'un enfant qui est très fragile, qui a peur, on le sait, les psychologues l'ont raconté, qu'il fait déjà une démarche très, très difficile jusqu'au prêtre pour dire avec ses mots à lui ce qu'il est en train de subir. Et c'est inévitablement, et ça c'est encore une fois, c'est le droit canon, le prêtre doit l'inviter et l'accompagner avec ses mots pour que l'enfant puisse délivrer cette parole en dehors de la confession. Et d'ailleurs, il est bien dit dans le droit canon que le prêtre est invité après la confession, parce que la confession, c'est quelque chose qui est vraiment très encadré, invite l'enfant à le revoir pour reprendre en cela, mais hors de la confession, reprendre ce qui a été dit, avec évidemment l'autorisation de l'enfant, pour permettre à l'enfant de dépasser un certain nombre de peurs et puisse agir auprès des personnes qui peuvent le représenter, mais en aucun rester passif.
Didier Levrais.
Je pense que ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre que cette obligation légale de signalement, elle n'est pas que dans le droit canon. Elle est dans le droit dur, positif, du droit pénal français, et que donc, quand c'est l'intégrité physique, morale, psychologique d'enfants qui sont abusés, dans le premier sens du terme, mais aussi abusés de par la position d'autorité morale de ceux qui l'ont fait, le crime est suffisamment grave pour qu'effectivement, il y ait automaticité, je l'espère, dans le signalement. Donc ça, c'est un point qui est non négociable, c'est inscrit dans le droit. Et pour répondre à la question de Philippe sur comment est-ce qu'on articule une obligation morale qui viendrait de convictions religieuses avec le droit, mais cette articulation, elle est très simple. Le droit, c'est la règle que se donnent les hommes pour pouvoir vivre ensemble. Elle n'est pas inspirée, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'état des rapports humains au moment où le droit se consolide. Mais néanmoins, ce droit s'applique pour tous. La règle de Dieu, elle s'applique pour les individus qui on fait confiance à cette parole inspirée et qui inspire leur vie, mais ça s'arrête là. Donc on est bien sur des ordres qui sont très différents.
Daniel Duigou.
Comme je le disais tout à l'heure, cette tradition, ce secret de la confession s'inscrit dans la tradition qui fait loi. Comme vous le savez, dans les sources du droit, il y a la tradition, et qui n'a jamais été jusqu'à maintenant remise en question par la loi de la République, je dirais. Et je crois que, compte tenu encore une fois de l'émotion normale, énorme, considérable, forte, que provoque cette commission, il s'agit d'ouvrir une réflexion. Le garde des Sceaux qui le disait récemment, la loi doit évoluer parce que la société évolue, les mentalités évoluent. Et là, on voit bien que cette problématique-là du secret sacramentel, du secret de la confession, fait choc, n'est pas comprise par l'ensemble, je dirais, de la population. Et là, il y a une nécessité de se rencontrer, de dialoguer. Et d'ailleurs, Moulin Beaufort va rencontrer le ministre de l'Intérieur. Il n'est pas convoqué, il est invité. Et là, je crois que ce n'est pas simplement entre le ministre et le représentant des évêques de France, mais il y a toute une réflexion à faire au sein de la société, encore une fois, pour réfléchir sur cette nécessité pour une parole libre du secret. Et ça, ce n'est pas nouveau. Sans secret, il n'y a pas de parole libre. Et ça, c'est du domaine aussi de l'anthropologie. La parole est nécessaire pour que l'homme s'accomplisse. Et s'il n'a pas de liberté de parole, comme dans certains pays, la dictature, eh bien, c'est l'esclavage, c'est une forme d'esclavage. Donc, il y a toute une réflexion à la fois psychologique, sociologique, culturelle, politique, à ouvrir à partir de ces révélations, mais on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas moi je ne le ferai pas, trancher comme ça, ils ont tort ou ils ont raison. C'est l'ouverture d'une interrogation à l'Église de s'interroger et à la société aussi de s'interroger dans le cadre d'un dialogue.
Philippe Bilger.
En fait, derrière nos échanges que j'ai trouvés passionnants, il y a, je sens poindre l'inquiétude, mais qui me paraît infondée, que cette déclaration de Monseigneur de Beaufort, finalement, soit une légère manière de revenir sur le constat accablant fait par la Commission. Moi, je ne l'analyse pas du tout comme ça, et j'ai cru comprendre que nous étions sur la même longueur d'onde.
Oui. Oui, oui, absolument. Je vous le confirme. C'est bien comme ça que je l'entends.
Mais est-ce que...
En aucun cas, encore une fois, c'est l'Église qui l'a voulu, ce sont les évêques qui l'ont voulu. Ils ont donné toute l'indépendance nécessaire, donc c'est quand même une preuve quant à la volonté d'aboutir à une vérité. Et là aussi, il n'y a pas de parole sans vérité. Et qu'il n'est pas question de revenir aujourd'hui sur les décisions, d'autant plus que, pas les décisions, je veux dire les conclusions, d'autant plus que maintenant il appartient à l'Église d'agir. Et il faut voir comment l'Église va agir en tenant compte de tout ce qui a été pointé par, très justement par la Commission. Mais une chose est donc de réagir, formation des prêtres, nouveau cadre pour le ministère des prêtres, etc. etc. Et puis autre chose, et de dialoguer sur cet aspect très pointu du droit quant à la différence entre le droit, le secret professionnel et ce qui a été, été un des piliers de l'Église aujourd'hui en ce qui concerne la confiance en Dieu, le pardon que l'on demande à Dieu, c'est la nécessité. Là, je m'inscris dans la tradition de l'Église, d'un secret absolu pour une liberté absolue, dans le cadre et seulement et uniquement dans le cadre de la confession.
Merci beaucoup Daniel Duigou, prêtre délégué aux nouvelles croyances par l'archevêque de Paris, auteur du livre « 7 jours au désert » publié chez Salvator, un livre qui vient de sortir. Verdict sur Twitter. Selon Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué? Vous êtes 59,9% à dire oui. Tout de suite, avec Philippe Rossi, on va prendre la direction du Stade Vélodrome de Marseille pour l'hommage qui est rendu en ce moment même à Bernard Tapie.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Lydia Girous et Didier Lebray et un grand hommage à Bernard Tapie, se tenu cet après-midi au Stade Vélodrome à Marseille, Philippe Rossi.
Et ça continue en ce moment même entre 6000 et 7000 spectateurs présents dans les tribunes du stade, des supporters qui ont très vite scandé le nom de leur ancien président. Tous les joueurs de l'OM, sauf ceux retenus en sélection, sont actuellement présents, tous habillés en noir. Alvaro Camara, Mavi, Mandanda, Lirola, il y en a d'autres encore. Ils étaient là avec une écharpe de l'Olympique de Marseille et la finale de la Ligue des Champions du 26 mai 93. OM AC Milan qui a été diffusée à la 44e minute lors du but de Basile Boli. Le cercueil de Bernard Tapie a fait son apparition avec cette musique en fond. Thierry est avec nous, s'il nous entend, supporter de l'OM, il est au Stade Vélodrome. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Ah, vous nous entendez bien. Merci Thierry, vous êtes un petit peu isolé. C'était important Thierry d'assister à cet hommage cet après-midi.
Bien sûr que c'était très important, c'était le père fondateur de l'OM, hein, même si l'OM a été créé en 1899, mais c'était important d'être là.
Ouais, ouais. Vous considérez Bernard Tapie comme beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille d'ailleurs, le président de l'OM à tout jamais et pour toujours.
Ouais, c'est ça. Pablo Longoria était là et tout le monde était là pour rendre un dernier hommage à Bernard Tapie, ouais.
Quel a été le moment, moi j'ai vu ça, nous on a vu ça à la télévision, vous êtes vous en direct du Stade Vélodrome, quel a été le moment le plus touchant, le plus émouvant lors de cet hommage, Thierry?
Le plus émouvant, c'était l'entrée du cercueil sur la pelouse avec la Ligue des Champions et les leaders de groupe de supporters derrière le cercueil.
Tiens, vous aviez quel âge en 1993, Thierry?
J'avais 28 ans.
28 ans, le 26 mai. Bon, vous en rappelez bien, j'imagine.
Bien sûr, je m'en rappelle très très bien.
Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Est-ce que vous étiez parmi ces supporters qui avaient accueilli les joueurs et Bernard Tapie à l'époque?
Ouais, c'est ça. On avait accueilli les joueurs au Stade Vélodrome, pas à Marignane, mais on les avait accueillis au Vélodrome. Mais on s'en souvient comme si c'était hier.
C'est vrai que ça rappelle le 26 mai 93. Ouais. On a un an d'écart manifestement avec Thierry. C'est sûr que c'est un match qui est dans l'histoire du football français.
Mais pas que les Marseillais. Moi, je me souviens. On était à Paris. Oui. On s'était habillés en bleu et blanc le lendemain. Moi, je me souviens très bien.
Ah bon? Moi, j'étais à Toulouse. Bah, on était à fond pour Marseille.
Non, pas vous.
Ah, pas vous.
Mais Thierry, est-ce que je peux poser une question?
Allez-y. Encore.
Thierry, est-ce que cette mythologie autour de Bernard Tapie vient du fait de cette victoire ou bien plus globalement, de la personnalité exceptionnelle de ce président-là?
Ben je serais tenté de vous répondre, c'est un mélange des deux.
Hein. Oui.
C'est un mélange des deux. Hein. Pour moi, c'est sûr que l'homme, la force, le charisme de l'homme a fait que ben il a inculqué ça à l'Olympique de Marseille et il en a fait des gagnants, quoi.
Demain, c'est les obsèques à la Major. C'est une des grandes cathédrales de Marseille. Hier, on a vu le cercueil de Bernard Tapie porté notamment par Basile Boli, le buteur de Munich. C'est lui que vous avez vu. Ouais. Et Jean-Pierre Papin.
Et Jean-Louis Borloo aussi.
Jean-Louis Borloo. Ouais. Il va y avoir énormément de monde probablement demain du côté de la Major à Marseille.
Vous irez, Thierry, tiens, d'ailleurs, demain?
Oui, je serai présent demain à la Major. Je fais le cortège en partant du Vieux-Port jusqu'à la cathédrale de la Major et on assistera à la bénédiction du corps par le Monseigneur, je ne sais plus le nom qui va faire la messe, mais on sera présent avec tout le monde et c'est vrai qu'il va y avoir énormément de monde demain à Marseille.
Ouais, Thierry, fervent supporter de l'Olympique de Marseille, présent pour l'hommage à Bernard Tapie au Stade Vélodrome. Et ça continue encore cet hommage.
Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup les Vraies Voix, Lydia Guirous, Didier Lebray, Philippe Bilger qui reste avec nous pour la suite. Nos deux Vraies Voix du jour, ce sera Sylvie de Bordeaux et Marie de Salon de Provence qui veulent parler justement du sujet dont on parlait avec Daniel Duigou sur les propos d'Éric de Moulin-Beaufort. Sud Radio, 18h56 minutes passées de 25 secondes. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
La suite des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie, qui est resté avec nous. Et Philippe Rossi, nos deux vraies voix du soir. Bonsoir Sylvie de Bordeaux.
Bonsoir.
Et bonsoir Marie de Salon de Provence.
Bonsoir Sud Radio.
Alors Sylvie et Marie, vous voulez parler de ce qui s'est passé dans l'Église. Alors on ne va pas parler que de Monseigneur de Mounado Beaufort, mais également des chiffres révélés par le rapport Sauvé, un rapport qui a été présenté avant-hier et qui fait évidemment couler beaucoup d'encre. On commence avec vous Sylvie.
Bah écoutez, moi je pense que là où se trouve la puissance, se trouve la soumission. Donc religion, parti politique, sport de haut niveau, etc., multinationales, c'est le même combat, ce sont des chapelles. Et donc il se passe des choses terribles dans ces chapelles. Mais on montre du doigt l'Église catholique, on montre du doigt les chrétiens, très bien, continuons comme ça. À ce moment-là, on met tout à plat, mais vraiment. C'est-à-dire que là, parce qu'il y a plein d'histoires là qui ont eu lieu dernièrement, curieusement, on n'entend plus parler. On n'entend plus parler de rien. Il avait raison. Enfin, je crois qu'un de vos, interlocuteurs parlait de 70 ans. Je crois qu'on est remonté à 70 ans.
Depuis 1950, absolument.
Non, mais attendez, ça fait des siècles que ça existe et aucun parti, aucun politique n'a jamais rien dit. Il n'y a rien n'a été fait. Et comme par hasard, maintenant. Aujourd'hui, pourquoi? Allez savoir. Alors, je ne sais pas quelle est la volonté. Est-ce que c'est de...
Alors, le rapport Sauvé a été commandé, Sylvie, par l'Église de France elle-même.
Oui, ben c'est bien, c'est courageux, tout à fait, c'est très bien. Mais en même temps, quand on entend tous les discours autour, on a l'impression que dans les autres religions, il ne se passe rien. Pourtant, il y a des religions qui sont tout à fait d'accord pour voir des petites filles mariées à 12 ans, avec des vieux barbons de 90, ça ne gêne personne, pas apparemment. Enfin, on pourra en parler, les listes sont longues.
Mais justement, on va parler de tout, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Marie de Salon de Provence, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, bonsoir.
Vous êtes chrétienne, vous êtes catholique, je crois.
Alors moi je suis chrétienne, j'ai été donc baptisée enfant et moi j'ai envie qu'on recentre un peu le débat, c'est-à-dire qu'on parle là de l'Église catholique et au sein même de notre chère Église catholique et bon, moi-même étant chrétienne, il y a énormément de déviance et de communautés à l'intérieur de toutes sortes, hein, charismatiques, non charismatiques. Et je peux vous dire que pour ce rapport, je pense même que les chiffres sont loin du compte. Pour moi-même, avoir été en connexion avec un prédateur au sein d'une école privée catholique et qui, à l'heure actuelle, 20 ans plus tard, malgré les faits de pédophilie qui ont été avérés, dont mes petits copains d'école se rappellent très bien, dans le sud de la France, ce même prédateur officie toujours au sein de communautés dans le sud de la France. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, ne serait-ce que aussi bien par rapport à l'Église et à la confession, mais aussi par rapport aux gens qui donnent le catéchisme au sein des écoles privées catholiques. Alors, de France.
Justement, il y a eu deux chiffres donnés, 216 000 enfants, je crois, abusés par des prêtres, et le chiffre monte à 330 000 si on compte les laïcs. C'est vrai quand même, Philippe Bilger, qu'il y a eu une omerta dans ce domaine pendant des décennies.
Vous avez totalement raison, et d'ailleurs je rejoins un peu ou prou ce que viennent de dire nos deux amis. Je voudrais dire à quel point je partage l'opinion, notamment de Sylvie. Le travail qui a été fait à la demande des évêques par la commission Sauvé est très remarquable. En effet, ces agressions, ces crimes sexuels existent depuis des années et ont été occultés pour des raisons qu'il serait trop long d'analyser ici. Sinon, d'abord, la principale, c'est qu'une institution, et l'Église en est une, a tendance à se protéger devant les dérives qui pourraient donner une mauvaise image d'elle. Mais là où je suis encore plus en accord avec Sylvie, ce travail, je le répète, a été commandé par les évêques. Il est effroyable sur le plan quantitatif, mais il est très courageux. Et il faudra en tirer des conclusions. Deux, son fondamentale déjà. Les affaires seront non plus laissées à la discrétion de l'Église, mais feront l'objet de poursuites judiciaires. Donc on ne verra pas les états d'âme du cardinal Barbarin. Ce sera... Et deuxième élément, les ecclésiastiques qui voudront rentrer dans l'Église devront faire l'objet d'une sorte d'examen de moralité. Et enfin, troisième élément, et là, Sylvie a parfaitement raison, il faut que les autres institutions, professorats, écoles, médias, autres églises, fassent le même travail.
Pour répondre à notre auditrice, Marie, voilà, elle a demandé pourquoi ça ne sort que maintenant, ça fait 70 ans, parce qu'il y a encore 10 ans de ça, c'était tabou, hein, la pédophilie dans l'Église, il a fallu une grande prise de conscience, et donc ce rapport, et puis aussi il y a eu beaucoup de prescriptions, Philippe Bilger, voilà, donc maintenant peut-être qu'il faut encourager les victimes à porter plainte très vite pour qu'on puisse poursuivre...
Mais justement, Sylvie, il y a quand même eu une certaine omerta, faut pas se cacher, c'était tabou. Moi, je connais quelqu'un qui m'est très proche, je peux le dire, c'est ma compagne, qui avait un prêtre qu'elle avait au catéchisme, mais qui aimait pas les petites filles, heureusement pour elle, mais plutôt les petits garçons. Et à la fin des années 60, début des années 70, c'était tellement tabou que personne n'en avait parlé. Sylvie.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Et par contre, je tiens quand même aussi, il existait des prêtres saints. Moi, j'avais un prêtre italien qui nous faisait le catéchisme, qui nous... Enfin, voilà, moi, je n'ai jamais eu aucun problème. J'étais une petite fille. Voilà, et c'est vrai que... Voilà, alors cet homme était assez remarquable, très enthousiaste et nous a montré un chemin, une ouverture d'esprit et je dirais il avait un côté vibratoire qui était assez exceptionnel, il n'en profitait pas. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le Vatican est quand même un État et qu'il faut savoir que le pape est quand même en lien avec tous les hommes politiques du monde entier, enfin de la planète. Donc à un moment donné, je ne comprends pas, ça me reste pour moi incompréhensible, qu'il n'y ait rien eu de fait avant. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais vraie question. Très court, oui, Philippe Bilger, parce qu'on vient d'apprendre, je vous explique, on vient d'apprendre une nouvelle, la mort d'Étienne Moujotte, à 81 ans, l'ancien directeur général de TF1, et on va avoir dans quelques instants Jacques Pessis avec nous, ça vient de tomber à l'instant.
Alors je laisse tomber et je dis au revoir à Sylvie et à Marie.
Marie, un dernier mot très court, vous avez entendu les circonstances, on l'apprend à l'instant, la disparition d'Étienne Moujotte.
Oui, en effet.
Alors un dernier mot sur l'Église catholique, si vous voulez.
Oui, tout à fait.
Ah, a priori...
Je pense qu'il y a besoin d'une grande réforme au sein même de l'Église et un concile Vatican III serait le bienvenu. Je pense qu'il y a de gros problèmes de communication au sein de l'Église. Je pense qu'il y a de gros problèmes de prévention aussi auprès des parents. Et je pense qu'il faut rappeler que les prêtres restent des hommes faits de chair et peut-être remettre plus d'humains, plus de chair dans ce corps qui est celui des prêtres, et peut-être faire un peu plus de communication pour prévenir ces situations et peut-être éviter de confier aveuglément des enfants aux mains de personnes qui finalement, n'ayant ni femme, ni possibilité d'avoir une vie sexuelle normale,
peuvent après avoir des dérives sur les enfants.
Il y a besoin de réformer tout ça.
Et on en parlera bien évidemment sur Sud Radio. Merci beaucoup à vous Sylvie de Bordeaux et Marie de Salon de Provence d'avoir été nos vraies voix du jour. Bonsoir Jacques Pessis.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Vous êtes la mémoire de Sud Radio et on a appris là il y a quelques minutes la disparition d'Étienne Moujotte à l'âge de 81 ans.
Oui, c'était un homme qui a vraiment tout fait dans les médias. Bon, il a commencé comme petit journaliste à Paris-Normandie, il a été correspondant et ensuite il est rentré dans les radios et les télévisions. Il a été présentateur même du journal de 20h, ça s'appelait 24h sur la Une. Il a été à RTL, à Europe, à France Inter. Mais en même temps, le tournant de sa carrière, c'est la privatisation de TF1. Il travaille pour Lagardère et Lagardère n'a pas la chaîne et il va réussir la performance de passer dans le Bouygues et de devenir vice-président de TF1, directeur d'antenne, et il va faire tous les programmes pendant des années de la chaîne privée. Il va même lancer LCI avec Claire Chazal comme présentatrice. Et ensuite, quand il quitte la télévision, il vient au Figaro, où je l'ai connu, comme directeur des rédactions, et il avait le sens du journalisme. Il savait ce que c'était un papier. Il avait une expression qui était un papier, on voit s'il y a de la la chair ou non. Et ça, c'est une leçon du vrai journalisme qu'on n'a pas assez aujourd'hui. Et puis, il a continué à travailler ensuite à Valeurs Actuelles, à Radio Classique, jusqu'à ses derniers mois où il a écrit ses mémoires. Il n'a jamais cessé d'œuvrer pour le vrai, pour le grand journalisme.
Philippe Bilger veut réagir.
J'ai lu ses mémoires qui étaient excellents et je rejoins ce qu'a dit Jacques. Le hasard a fait que hier sur à la télévision, j'ai entendu un grand professionnel, Gérard Carrérou, parler d'Étienne Moujotte et il a dit sur un autre thème qu'il avait une intuition extraordinaire pour déceler les sujets qui auraient du succès alors que parfois la majorité allait vers d'autres thèmes. Lui, il savait, avec un flair incroyable, trouver ce qui intéresserait. C'est une grande qualité.
Et puis, c'était un des patrons de télé les plus médiatisés
il
avait son guignol de l'info. Le duo Lelay-Moujotte, vous vous souvenez tous de duo-là.
Absolument.
Voilà. Il a aussi révolutionné la télé, Étienne Moujotte. On a pu critiquer les programmes de TF1, mais c'est lui quand même qui, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, a commencé à surfer sur le mouvement de la mouvance de la télé-réalité, par exemple. Donc absolument. Il avait du pif, Étienne Moujotte.
Oui, il y allait.
Il y allait, lui, aucun problème.
Jacques Pessis, c'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Le PDG et le DG de TF1 avaient leur marionnette au guignol à l'époque. Patrick Lelay, qui est décédé il y a quelques mois, et Étienne Moujotte, qui vient de nous quitter.
Oui, mais parce que c'était des personnalités médiatiques au-delà de l'écran, c'est-à-dire qu'ils étaient en coulisses, mais en même temps, ils étaient tout le temps à l'antenne. Dès qu'il y avait un problème, ils venaient à l'antenne.
Absolument. Une chose, c'est quand même un monument du journalisme qui avait commencé en faisant le 20h, comme vous l'aviez dit, qui a fini patron de la plus grosse chaîne de télé de France. Et c'est vrai que quelque part, vous avez parlé de la privatisation de TF1, il a été, Philippe Rossi a parlé de la télé-réalité, il a été à l'origine, avec Patrick Lelay bien évidemment, d'un basculement dans le PAF, le paysage audiovisuel français.
Surtout qu'à l'époque, personne n'imaginait que Bouygues aurait la chaîne. Tout le monde assurait que ce serait Jean-Luc Lagardère.
Et comment ça s'est passé? Pourquoi ça a été c'est l'influence de Lelay et Moujotte qui ont fait qu'il a eu...
Parce que Moujotte, à l'époque, était encore avec Lagardère dans le projet et avec Christine Ockrent. Et puis Bouygues a eu... on ne sait pas ce qui s'est passé, franchement, mais Bouygues a eu le marché, comme on dit, ça c'est un terme qui lui convient bien, et il a appelé Moujotte et Moujotte a accepté de mettre son professionnalisme au service de Bouygues.
Merci beaucoup Jacques Pessis. Une nouvelle qui vient de tomber là il y a quelques minutes. La disparition d'Étienne Moujotte, ancien directeur général de TF1, à l'âge de 81 ans.
Et Étienne Moujotte, c'est un des patrons de télé que les Français connaissent le mieux. Hein, parce qu'aujourd'hui, de demander à un Français de nous citer un nom de patron de télé, ils connaissent pas.
C'est sûr et certain. Quel est le menu maintenant, mon
cher
Philippe
Rossi ? Les voix des entrepreneurs. Dans quelques instants, on vous parlera de ce salon Big à l'Accor Hotel Arena. Et puis, tout de suite, il est question de votre patrimoine sur Sud Radio. Comme tous les soirs d'ailleurs, c'est avec Stéphane Moller. Voici Conseil de famille.